Nous avons marqué une première pause, bah on va y revenir avec Shadow, que sa dernière pause, l'espion inutile. À peine revenu dans la saga sphère, Shadow a sorti 6 pubs inutiles et cette nouvelle pause sur l'espionnage. C'est du Shadow comme on l'aime, avec son rythme endiablé et ses calembours stupidement géniaux.
Je poursuis avec l'épisode 3 de Mythologias par Nikelos. Le héros homonyme de l'auteur est toujours à la recherche de la princesse. Les acteurs au jeu débutant se distinguent par la qualité de leurs enregistrements et de leur niveau sonore. Et il est à noter la présence d'une actrice et d'un univers peu employé, l'Antiquité.
Passons à présent à CQFD avec la mouche partie 1 de D1. De bons jeux de mots, une trame bien déjantée et des gags bien non-sens, notamment avec la voix off, et une bonne fin à la film d'horreur de série B. Ce qui fait également frissonner, ce sont peut-être les passages aux musiques trop fortes.
Réfugions-nous sous nos tentes avec l'épisode 2 version 2, l'épisode 6 et une chanson du Camping Infernal par Creek of War. C'est-à-dire comment transformer une histoire sur un groupe de potes en une parodie de film d'horreur genre Blair Witch. La musique d'ambiance du début de l'épisode 2 est assez répétitive, donc lassante. Ça manque de stéréo et de maîtrise des niveaux sonores, ainsi que d'humour pour certains gags à rallonge. On sent vraiment bien l'inspiration d'Noël Buck, de la musique à la voix des héros, très nanesque. Enfin, pour ce qui est de la petite chanson, bah, je lui ai trouvé très peu d'intérêt.
Allez, maintenant, je vais faire un joli petit air groupé pour le final des Wagaprod. On a une fin à chialer pour les épisodes 101 et 102 de Bifwish, une fin à baver devant les yeux de l'ange bleu, et une fin de deuxième saison d'Eden à s'en lécher les doigts. Bref, Buxley ne cesse de nous faire plaisir aux oreilles avec des trames scénaristiques poussées et une mise en scène digne des plus grands films hollywoodiens.
Profitons-en pour nous faire plaisir aux oreilles avec ce petit extrait.
Le fou emmène la reine à sa perte. Le cavalier sauve la reine. Qui sauvera le fou? Où commence le rêve, monsieur Buxley?
Cette question, vous me l'avez déjà posée à Londres il y a quelques mois déjà. Et désolé de vous décevoir, mais je ne peux pas vous aider, petit bonhomme. Le sourire a disparu de son visage.
Ce n'est pas moi qui vous pose cette question, mais c'est vous qui devriez vous la poser.
Je reviens avec le « Comment qu'il a fait ?» par Takeshi. Une étrange ressucée des comment qu'ils ont fait de Peewill. La trame est la même que la pastille sur Pain of Chaos, les gags on ne peut plus similaires et la technique en deçà du modèle choisi. Une sacrée déception pour qui a apprécié le travail initial.
Et un épisode 3 du Stylo de la Mort par Maze93, encore bien rattaché au manga original, avec son bon lot de situations mises en dérision. Hormis un léger, mais vraiment léger, manque pour le jeu d'acteur, c'est du tout bon.
C'est du tout moi aussi la progression qu'a fait Zimi sur sa saga Tales and Symphony. Je me base sur les épisodes 12 et 13. Le scénario augmente à un certain rythme, plutôt lent, et l'aventure se poursuit avec son manque d'action flagrant. Mais au moins, donc, on sent cette amélioration de la qualité depuis les premiers épisodes, notamment par la disparition des horribles saturations qui existaient jadis. Bref, une parodie de cours de récré pour les fans seulement.
Alors, jamais 203, je reviens encore sur Night 2000 avec son mono Save Series, pot-pourri de séries TV, ou comment sauver la production des séries télé américaines en invitant de ce mono des héros de séries télé américaines et de jeux vidéo. De MacGyver à Jack Bauer en passant par Solid Snake, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est plutôt bien fichu et c'est assez drôle.
Avez-vous remarqué que Doc DeMacedius a sorti un mono? Avez-vous remarqué, dans un restaurant? Ouch, aïe, ouah! Trois onomatopées traduisant ma déception, ma douleur et mon étonnement. J'ai été déçu donc de voir ce patchwork décousu de gags rapportés de grands noms de l'humour, blessé par la qualité avec laquelle ces extraits ont été traités, et étonné de voir un sujet original mis en scène de façon si classique. Un jour, Doc aussi fera se manifester les foules, mais le chemin risque d'être encore long.
Et si vous ne l'aviez pas remarqué, je vous l'annonce, voici un extrait.
Après arrive le moment de la commande. Mais souvent, ce n'est pas le serveur qui est fautif. C'est souvent le client qui ne réfléchit pas.
Et l'avez-vous remarqué aussi, Durandal a sorti un épisode, tiens, pour changer, Banal Fantasy Origins, l'épisode 3. Un nouvel épisode donc qui voit nos quatre héros rencontrer une certaine voyante. Un épisode qui ne brille malheureusement pas pour la qualité de son humour moins bon que d'habitude, et l'apparition de Zimi dans un rôle plus que secondaire. Il passait complètement inaperçu, le pauvre.
Poc nous explique ce qu'est la vie d'aventurier dans une bonne chanson Nullbuckienne qui nous rappelle qu'avant tout, John Lang est un rôliste pur et dur, nourri au biberon rempli de règles de donjons et dragons. Techniquement, irréprochable.
Irreprochable aussi, c'est un adjectif que je pourrais appliquer à The Veritable Legend of Zelda, les épisodes 10, partie 3 et la bande-annonce du tome 2 par Killork. Alors, l'épisode de fin du tome 1 est, pour ainsi dire, aux petits oignons. Il y a que ça à dire. Des bons gags, une technique excellente, un bon cliffhanger en prévision du tome 2. Bref, que du bon. Et en parlant du tome 2, la bande-annonce annonce bien la couleur de ce qu'on attend de cette saga avec un Link découvrant les joies de l'adolescence. On a hâte d'entendre ça.
On ne présente plus le style d'Icoline dans notre journal et pourtant, il serait bon par moment de faire quelques précisions sur ce créateur peu commun. Si la qualité sonore de l'épisode 9 de Supremum est à peaufiner et la diversité des voix non assurée, il faut quand même avouer que ce faiseur québécois a su créer son propre univers, dense et travaillé, qui malheureusement nécessite de longues phases narratives pour nous être présentées. À l'avenir, une encyclopédie de Ned pourrait être appréciable.
Vulcain a sorti un quatrième épisode de Mission Impossible, édition soviétique. Alors c'est mou, très mou. On a du mal à différencier les voix entre elles, si ce n'est grâce à la qualité des micros très diverses, pour ne pas dire autre chose. L'absence quasi totale de musique n'est pas pour aider, les bruitages pas suffisamment inclus dans les dialogues pour être crédibles, et le manque de conviction dans certains dialogues clés font que je n'ai pas du tout accroché à cet épisode. Cet extrait pour preuve.
Lieutenant Baker, nous vous emmenons les deux espions que nous avons capturés.
Espions ? Mais vous rigolez, je ne suis qu'un honnête touriste.
Tout comme moi. C'est comme ça que vous encouragez l'industrie touristique dans ce pays ?
Silence !
Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause dans ces sorties de l'été avec un deuxième mono de Kradukman, le casier numéro 2.
Beaucoup de ce qui fut jadis fut oublié, et ce qui fut détruit, enterré sous la masse du temps. Mais parfois, il vaut mieux éviter de déterrer le passé. Quelque part sur un chantier archéologique en Belgique.
Monsieur Jones.
Oui.
Nous avons trouvé quelque chose. Là.
Une pancarte. Bienvenue au lycée Saint-François.
Cet été.
Monsieur le sénateur, il y a Jones.
Bonjour à tous.
On l'a retrouvé.
Messieurs, j'ai une déclaration importante à vous faire.
Pour le malheur.
Nous allons sans doute bientôt savoir pourquoi la ville de Knox a d'un coup complètement disparu.
De tous. Kradukman Production présente.
Monsieur Jones, nous avons découvert ceci.
Harrison Citroën.
Une cassette.
Dans.
Emmanuel Courbet pour le journal. Je suis ici sur place devant le lycée Saint-François. Et l'armée est aussi sur place.
Le casier 2. Il y a Jones et le casier retrouvé. Actuellement dans vos oreilles.